Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal, c'est avec vous, Florence Cohen. Bonjour.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Les médaillés du judo sont rentrés à Paris hier. Teddy Riner, Clarissa Gbenienou et leurs coéquipiers ont été acclamés au Trocadéro. Il faut dire qu'avec 8 médailles, la moisson est historique. Les judokas étaient très heureux de retrouver leurs supporters. Une belle ambiance malgré le temps maussade sur la capitale, Cyril de la Morinerie.
Oui, plusieurs centaines de supporters ont accueilli les héros de Tokyo. Teddy Riner, drapeau bleu, blanc, rouge sur les épaules, est arrivé tout sourire sur le podium, installé face à la Tour Eiffel et a fait le show.
Est-ce que vous êtes là ?
Mais la nouvelle star, c'est Clarissa Gbenienou. 2 médailles d'or à seulement 24 ans. Vincent a pu l'approcher lors de son arrivée au Trocadéro.
On l'a croisée tout à l'heure en plus en arrivant, donc les enfants ont pu la saluer, c'était sympa. Super, c'est un sacré champion avec de l'humanité, la tête sur les épaules, donc cool quoi.
Et la nouvelle coqueluche du public a pu savourer sa popularité. Clarissa Gbenienou, qui a concouru à Tokyo sans public, est impressionnée par la ferveur qui règne autour d'elle.
On était dans notre bulle au Japon. Je voulais tellement cette médaille qu'on ne savait pas, mais là aujourd'hui, je commence à comprendre, même en marchant dans la rue, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et même avec la fatigue, j'ai le sourire jusqu'aux yeux. J'ai mal aux joues, de crampes tellement je souris, mais c'est que du bonheur et merci beaucoup.
Désormais, Teddy Riner a donné rendez-vous aux supporters.
On a les jeux à Paris, je compte bien en profiter et j'espère que vous serez là pour nous donner de la voix et de l'énergie.
Les judokas français arriveront confiants pour les Jeux de Paris 2024.
Parmi les résultats de la nuit, à Tokyo, les handballeurs français sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire contre Bahreïn 42-28. À suivre aujourd'hui, Renaud Lavilloni pour sa 3e finale olympique à la perche. Et le Norvégien Kanstan Warholm décroche l'or en 400 mètres haies. Il signe au passage un record du monde à 45 secondes 94.
Après la Martinique, c'est donc au tour de la Guadeloupe de se reconfiner à cause du Covid. Reconfinement pour au moins 3 semaines à partir de demain soir. La situation y est catastrophique. Sur place, les autorités avec 3000 cas par semaine.
Et la Corse aussi fait face à une augmentation inquiétante du nombre de cas de Covid. Situation particulièrement tendue à l'hôpital de Bastia et les prochains jours s'annoncent encore plus rudes, Claire Leys.
En moyenne, 9 personnes positives sont hospitalisées chaque jour. Il reste moins de 5 lits Covid à l'hôpital de Bastia. Et selon Sophie, soignante au pôle chirurgie, le pire reste à venir.
C'est de plus en plus tendu. Les soignants sont de plus en plus épuisés. Là, maintenant, on fait appel aux heures supplémentaires sur une période de congé très attendue par l'ensemble du personnel. On vit carrément au jour le jour, en fonction de ce qui nous tombe dessus.
Sans compter qu'avec l'afflux de touristes, le travail s'intensifie également aux urgences. La situation devient intenable, selon Sophie. Certains soignants sont même tentés de rendre la blouse.
Moi, la première. Pourtant, ça fait 26 ans que je suis soignante. Je commence à me poser la question. C'est horrible, cette situation.
Cette nouvelle crise ravive les souvenirs de la première vague. Les leçons n'ont pas été retenues, selon Séverine Mazon, co-secrétaire CGT à l'hôpital de Bastia.
En faisant des lits de patients Covid, on est obligé de réduire le capacitaire des autres spécialités. Donc, nous sommes très tendus en termes de lits, mais c'est un problème qui était déjà connu avant le Covid et qui continue avec cette crise sanitaire, tout simplement.
Consciente de l'urgence, l'ARS de la Corse et la préfecture doivent annoncer de nouvelles mesures sanitaires dans la journée.
À l'échelle nationale, un peu plus de 5000 nouveaux cas de Covid hier, 51 décès. Il y a 7800 malades à l'hôpital, dont 1200 en soins critiques. 53% des Français ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Et sur les réseaux sociaux destinés aux jeunes, Emmanuel Macron se propose de répondre à leurs questions aux jeunes. En t-shirt noir, devant le drapeau français au fort de Brégançon, le président affirme qu'ils entendent tout et n'importe quoi sur le vaccin. Notez enfin que la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie, va de nouveau dépister ses habitants après la découverte de quelques cas.
7h06 sur Europe 1, la suite de votre journal, Florence Cohen, avec les plaintes pour violences conjugales qui doivent être désormais traitées en priorité. C'est la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
L'année dernière, une femme est morte tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. 102 féminicides, 23 hommes tués. C'est bien évidemment des chiffres insoutenables, mais c'est en baisse importante par rapport à 2020, Marion Dubreuil.
Oui, en 2019, on dénombrait 146 féminicides, soit un décès tous les 2 jours. Avec 102 féminicides, 2020 enregistre le nombre le plus bas de victimes au sein du couple depuis que l'étude a été lancée en 2016. D'après les associations, cette baisse est due notamment à une mobilisation exceptionnelle pendant les confinements, mise en place de plateformes d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mise à disposition de places d'hébergement supplémentaires pour les victimes, car l'étude nous apprend que l'écrasante majorité des féminicides a lieu au domicile conjugal. D'après la délégation aux victimes, une femme sur cinq avait déjà déposé plainte. Et là, c'est un pourcentage constant par rapport à l'an dernier.
Et dans le même temps, Marion, les interventions des forces de l'ordre pour différends familiales sont en très nette augmentation.
Oui, près de 400 000 interventions l'an dernier contre 340 000 en 2019. Cela veut dire que les victimes sollicitent davantage les policiers et les gendarmes, tout comme les voisins, l'entourage. En revanche, c'est toujours le même ratio entre le nombre d'interventions et le nombre de procédures judiciaires. Il y en a deux fois moins. Cela veut dire que les interventions de police et de gendarmerie ne sont pas toujours suivies d'enquêtes et de poursuites. Même en l'absence de plainte, le ministre de l'Intérieur veut systématiser le signalement au procureur pour que toutes les situations de violence conjugale soient judiciarisées.
Alors, on va compléter ces informations avec vous, Ernestine René. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous dirigez l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. Parmi les 102 victimes de féminicides l'année dernière, 24% d'entre elles, tant que ça, 24% s'étaient fait connaître des forces de l'ordre.
Je pense que nous avons besoin dans notre pays encore de penser le principe de précaution. Lorsqu'une femme se signale, il faut la protéger absolument. On ne sait pas quand un homme violent va passer à l'acte dramatique, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tous dangereux. Et il n'y a pas de petite violence. Toutes les violences conjugales sont dangereuses, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment il va passer à l'acte le plus grave. Donc, il faut protéger toutes les femmes victimes de violences qui se signalent. Et on donnera confiance aux femmes. Du coup, elles se signaleront davantage, et que ce soit sous forme de plainte ou de demande d'ordonnance de protection, celles qui ont déposé plainte, qui se sont signalées aux forces de sécurité, il faut absolument les protéger. Et c'est pour ça que je parle du principe de précaution.
Alors justement, Ernestine René, le ministre de l'Intérieur annonce qu'il y aura un référent violence conjugale dans chaque commissariat et dans chaque brigade de gendarmerie. Est-ce que c'était une mesure attendue par les associations ?
Bon, là, il semble qu'il y ait une volonté nouvelle, plus importante, ce qui est bien. Je pense que ce qu'il faut rajouter à cela, c'est que ces gendarmes ou policiers spécialisés doivent être volontaires, sélectionnés par une lettre de motivation. Et c'est très important parce qu'on voit qu'avec l'affaire de Mérignac, où un policier qui a été lui-même auteur de violence a pris une plainte et évidemment l'a mal prise, du coup, ça a donné ce que ça a donné. Une dame qui a été malheureusement tuée avec plein de dysfonctionnements sur Mérignac, mais l'un des dysfonctionnements, c'est celui-ci. Donc, bien sûr qu'un auteur de violence ne peut pas prendre de plainte pour des violences. Et puis, il faut suffisamment de gendarmes et de policiers pour prendre les plaintes et le faire correctement. Parce que ce n'est pas pareil de prendre une plainte pour un téléphone portable volé que pour une dame qui a été victime. Et donc, ça demande plus d'attention, plus de temps. Et il faut leur donner le temps, donc il faut du nombre.
Merci Ernestine René. Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis.
Le père du petit Dewi, convoqué devant la justice en octobre prochain. Cet homme de 38 ans a enlevé son fils quelques heures ce week-end. Il n'a pas le droit de le voir seul. Une alerte enlèvement avait été déclenchée.
Des milliers d'hectares dévorés par les flammes, des centaines de personnes qui fuient leurs habitations et des forêts entières qui partent en fumée.
L'Europe du Sud est en proie à de violents incendies depuis un mois. Un phénomène qui s'intensifie ces derniers jours et qui touche aussi des pays bien plus au Nord, jusqu'ici préservé, Damien Mestre.
Plus de 800 interventions en une seule journée, c'est ce qu'ont dû réaliser ce week-end les pompiers dans le sud de l'Italie. Des incendies qui frappent également l'Espagne ou bien encore la Grèce. Près de la ville de Patras, une vingtaine de maisons a brûlé, des flammes parfois proches de stations balnéaires très touristiques, comme sur l'île de Rhodes où Maud et sa famille sont en vacances.
On a vu un gros nuage de fumée d'un seul coup. L'eau et l'électricité ont été coupées dans tout l'hôtel. Il fait très très chaud. Pour avoir beaucoup voyagé, c'est la première fois qu'on a des chaleurs aussi insupportables.
Mais c'est en Turquie que la situation est la plus dramatique. Déjà 8 morts dans le sud du pays. Plus de 1000 personnes évacuées par bateau. Les habitants appellent à l'aide sur les réseaux sociaux. Cette femme filme les flammes à quelques mètres de sa maison. Sur cette autre vidéo, on voit des habitants tenter désespérément de combattre l'incendie. Armé d'un simple tuyau d'arrosage, le feu est en train de dévorer un champ d'oliviers. Des scènes impressionnante partout en Europe et même jusqu'en Finlande. 300 hectares ont brûlé à 500 km au nord d'Helsinki. C'est le plus grand feu de forêt depuis 50 ans dans ce pays, aux frontières du cercle polaire.
Une bonne nouvelle pour la biodiversité en Alsace. Il n'y a jamais eu autant de cigognes dans le ciel de la région.
Eh oui, elles ont failli disparaître il y a 50 ans, mais maintenant elles sont protégées. Reportage de Mélina Fachin à Molsheim, près de Strasbourg.
Voilà 5-6 ans qu'une belle cigogne a élu domicile dans le jardin de Ludovic, au sommet de son grand sapin.
Elles font beaucoup de bruit. Elles mettent un peu des branches un peu partout aussi, c'est aussi le problème. Mais c'est une petite fierté d'avoir juste une cigogne dans notre jardin, d'un côté, parce que du coup, il y a même eu des petits. Bon, ils sont plus là, mais dans notre rue, il y en a vraiment partout. Elles développent bien ici.
12 couples de cigognes précisément dans cette commune de 9000 habitants, alors que dans les années 70, il n'en restait plus que 9 dans toute l'Alsace. Élevées en captivité, nourries par l'homme, l'oiseau a pu être sauvé. Cathy Zell, chargée de mission à la LPO d'Alsace.
En 2015, on avait environ 800 couples de cigognes et a priori la population a encore un petit peu augmenté, donc on serait à peu près à 1000 couples.
Un nombre suffisant désormais pour laisser la cigogne se débrouiller toute seule, même si elle vit en bonne harmonie avec l'homme.
Il faut respecter certaines règles qui est de la laisser tranquille, de ne pas lui donner n'importe quoi à manger, notamment du pain. On ne les touche pas, on les laisse vivre leur vie d'animal sauvage.
Un animal sauvage qui a retrouvé depuis peu son instinct de migration. Dans quelques jours, les cigogneaux vont partir pour la première fois découvrir l'Afrique. Molsheim, Mélina Fachin, Europe 1.
Merci, c'était Mélina Fachin dans le journal de Florence Cohen. Merci Florence, à tout à l'heure.